Nous sommes toujours avec notre invité, Belir Nabli, maître de conférence en droit public, essayiste, auteur de La République du soupçon, paru avant que n'éclate l'affaire Alexandre Benalla. Belir Nabli, vous disiez tout à l'heure à quel point cette affaire allait sans doute renforcer encore l'exigence de transparence et d'honnêteté des citoyens vis-à-vis de l'État. Vous avez vu les derniers sondages qui concernent la popularité d'Emmanuel Macron. Elle baisse, cette popularité, elle baisse un peu, mais elle baisse pas beaucoup quand même.
Oui, parce que encore une fois, c'est enfin, ça pourrait aussi souligner finalement le caractère souterrain de l'impact ou de l'onde de choc de l'affaire Benalla, à savoir que c'est une affaire qu'on retrouvera au moment d'établir le bilan du quinquennat de M. Macron, en sachant que celui-ci avait fait campagne en 2017, notamment sur la thématique de l'exemplarité, et que cette affaire vient de manière frontale. Symboliser à contrario une forme d'incapacité du pouvoir à incarner cette exemplarité-là. Et donc, c'est en cela aussi, donc, dans une échelle plus symbolique, que l'affaire Benalla est importante avant de pouvoir traduire des effets véritablement politiques. Mais ces effets politiques existent déjà. Je soulignerai notamment, en particulier, le fait qu'elle a donné opportunément l'occasion à l'opposition de se requinquer, une opposition qui ne trouvait pas depuis le début de la législature d'angle d'attaque à l'encontre de la politique menée par le président Macron et qui, à travers précisément cette thématique relativement nouvelle de la transparence et de l'exemplarité, a trouvé précisément un angle d'attaque. Alors je dis relativement un angle d'attaque relativement nouveau. Il faut rappeler que finalement la transparence, l'exemplarité, on peut retrouver des traces dès le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui parlait d'une république irréprochable. Le problème, c'est qu'en même temps, lorsqu'on cite le nom de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas à la république irréprochable qu'on pense. On pense précisément à l'inverse à cause de la série d'enquêtes judiciaires ouvertes à son encontre, y compris pour corruption.
Et dans votre livre, vous montrez bien que tous les présidents de la 5e ont été concernés par des affaires, alors évidemment qui n'ont pas toutes la même qualification juridique ni la même gravité, mais il n'y a pas un président qui a échappé à ces scandales sous la 5e.
En effet, vous avez une forme de continuité en la matière, mais une continuité rompue par une exigence nouvelle, en tout cas affirmée, y compris à travers les enquêtes d'opinion sérieuses réalisées notamment chaque année par le centre de recherche, le CEVIPOF, un centre de recherche de Sciences Po Paris, sur la confiance politique et qui souligne bien et qui montre bien la montée en puissance, l'affirmation du moins de l'exigence, d'une exigence morale, d'exemplarité à l'encontre ou à l'endroit des responsables politiques à un moment où précisément, notre démocratie est une démocratie qu'on qualifie de plus en plus d'une démocratie de la défiance, c'est-à-dire où la confiance n'existe pas assez entre les citoyens et leurs responsables politiques. Et donc, cette question du lien entre les citoyens et leurs gouvernants est fondamentale dans un régime où la légitimité politique est de nature démocratique par définition,
oui, mais
ou en principe.
Vous dites que cette affaire se retrouvera au bilan d'Emmanuel Macron, donc à la fin, mais on a tendance à oublier aussi la capacité d'oubli justement et de rémission de l'opinion publique pour n'importe quel genre d'affaire quand il concerne les politiques. Donc toujours à la fin, on dit oui, à la fin, on le mettra au bilan, mais en attendant, tout continue en fait. Et encore une fois, il ne s'agit pas de mettre quelqu'un en cause en particulier.
Vous avez raison, ça renvoie à deux choses. Premièrement, c'est une affaire extrêmement intéressante, d'abord et avant tout de mon point de vue, peut-être c'est le regard du juriste, parce qu'elle révèle dans toute sa splendeur, si j'ose dire, la nature de notre régime. On l'a dit d'emblée, c'est un régime où le pouvoir est hyper centralisé, mais qui se caractérise en même temps, comme dirait l'autre, par le principe d'irresponsabilité de celui qui concentre les pouvoirs. On a d'un côté un pouvoir hyper présidentialiste et de l'autre une impossibilité constitutionnelle a priori d'engager la responsabilité de celui qui concentre les pouvoirs, avec quand même un bémol que certains ont rappelé, le bémol étant situé à l'article 68 de la Constitution et qui prévoit, si j'ose le rappeler précisément, l'existence d'une procédure de destitution du président de la République pour des actes ou des faits particuliers et particulièrement graves qui seraient indignes de sa fonction, en rupture avec ou en manquement avec sa fonction précisément. dans une discussion ouverte, et y compris au sens du contradictoire, il serait susceptible d'engager une discussion autour de l'affaire Benalla et la possibilité précisément d'engager une telle procédure de destitution sur la base de faits qui ne sont pas encore totalement établis. Mais voilà, la question se pose. Mais ce qui reste effectivement, c'est cette impression un peu de, non pas d'impasse politique, mais en tous les cas d'incongruité, où celui qui s'est présenté comme le seul responsable, pour reprendre les mots du président Macron, se retrouve en même temps, du point de vue constitutionnel, le seul, en principe, irresponsable. Et c'est cette tension-là qui souligne et qui symbolise bien le déficit démocratique de notre régime.
Et qu'est-ce qu'il voulait dire d'ailleurs Emmanuel Macron en disant « le seul responsable de cette affaire, c'est moi et moi seul. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Qui ça, il ?» Est-ce qu'il était en train de dire que c'est lui, chef de l'État, contre la justice ? Ça serait déjà entendu, vu dans l'histoire de la cinquième.
Ça renvoie encore une fois à ce qu'on a dit également sur son rapport à toute forme de contre-pouvoir. Il est tout de suite dans une relation assez conflictuelle. Or, il y a des procédures qu'on vit aujourd'hui, des procédures qui se passent relativement bien ou sereinement. Il y a les procédures d'enquête parlementaire, administrative et judiciaire ont lieu dans un État, pour le coup, un État de droit digne de ce nom. Et là, on a malgré tout une parole présidentielle relativement agressive, où en gros, il appelle effectivement à prendre, certes, la responsabilité de cette affaire. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas de compte à rendre ni à la justice, principe d'inviolabilité de la présidence de la République, ni aux parlementaires, principe d'irresponsabilité politique, en principe également, du président de la République. Donc, qu'ils viennent me chercher, finalement, c'est une manière d'en appeler à l'arbitrage populaire, à l'arbitrage du peuple souverain, au moment des élections. S'agit-il de l'élection présidentielle de 2022 ou donne-t-il rendez-vous dès l'année prochaine pour les élections européennes, puis les élections municipales ? C'est une question qui se pose, mais à mon avis, et dans la logique de la Ve République, il renvoie finalement cette fonction d'arbitrage, non pas à la justice, non pas aux parlementaires, mais aux citoyens directement, au peuple souverain.
Alors cette affaire Benalla a éclaté en plein examen de la révision constitutionnelle et on a suspendu les débats parlementaires. Comment pourrait-elle avoir une incidence sur les prochains débats ? Qu'est-ce qui reste à imaginer ? Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre pour modifier ce projet de loi à l'aune de ce qui s'est passé ? Et peut-être, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ou espérer un rééquilibrage des pouvoirs en quelque sorte ? Qu'est-ce qu'il faut en attendre ?
Disons que là, pour le coup, la majorité au pouvoir n'a pas eu beaucoup de chance avec l'éclatement de l'affaire Benalla en plein débat constitutionnel, en plein débat de réforme des institutions, sachant que précisément, l'une des critiques à l'égard des réformes à venir, en tout cas critique exprimée par l'opposition, consiste à dire que le caractère hyper-présidentialiste du régime allait être accentué. Et que précisément, l'affaire Benalla vient illustrer les dysfonctionnements auxquels aboutit ce type d'exercice du pouvoir. Donc là, il y a effectivement une vraie question qui se pose, sachant que la procédure de réforme constitutionnelle a été suspendue. Est-ce qu'on peut reprendre ce débat constitutionnel comme si de rien n'était ? Ou est-ce que le gouvernement va oser, dans un geste finalement démocratique d'une certaine manière, réouvrir le champ du débat et pourquoi pas le champ précisément de la réforme en intégrant des éléments permettant précisément au Parlement d'être un peu plus renforcé, y compris en prenant un exemple qui nous intéresse directement, y compris en permettant à une commission d'enquête de se constituer plus facilement, puisque la question de la mise en place d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, parce que la majorité présidentielle est en force, est une mise en place qui n'allait pas de soi. Elle a été empêchée jusqu'au moment où on s'est rendu compte, en tout cas l'opposition s'est rendu compte, qu'une commission permanente, la commission des lois, en l'occurrence, pouvait siéger en tant que commission d'enquête. Mais si on n'avait pas trouvé cet artifice procédural, la majorité parlementaire, conformément au souhait ou à la volonté présidentielle, n'aurait pas mis en place cette commission d'enquête. Donc on aurait été, encore une fois, face à une situation assez extravagante où on a des contre-pouvoirs extra-institutionnels qui ont permis la révélation de l'affaire, qui ont permis de la développer, d'essayer de poser des questions au pouvoir, et de l'autre, des institutions complètement neutralisées à cause du fait majoritaire.
Et un Parlement qui n'a pas pu entendre le président de la République, justement parce qu'au nom de cette séparation des pouvoirs, les parlementaires sont là pour contrôler le gouvernement et pas le chef de l'État. Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir dans l'équilibre des pouvoirs, séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires et législatifs ?
Alors, s'il y a des choses à revoir, naturellement que le débat est ouvert, mais si on s'engage dans cette voie-là, il s'agit tout bonnement de changer la nature du régime. On peut pas d'un côté garder le principe d'une concentration du pouvoir à l'Élysée et de l'autre essayer de renforcer un Parlement sans qu'il ne remette en cause cette hypercentralisation. Il y aurait là donc comme enjeu de changer, non pas de république, mais d'équilibre des pouvoirs et pourquoi pas de démocratiser la Ve République, certains en appelant même à une Sixième République. Mais ce qui est intéressant effectivement au regard du calendrier et des derniers faits politiques en la matière, c'est que d'un côté on s'est rendu compte de l'impasse dès lors qu'il s'agit de mettre en cause la responsabilité du premier responsable. Et de l'autre, on a demain un rendez-vous important qui est la discussion des deux motions de censure de l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais deux motions de censure qui auront pour intérêt de cristalliser finalement l'affaire Benalla, mais une cristallisation qui risque d'incarner le point final politique de cette affaire, puisque une fois que la discussion et que le rejet de la motion de censure fait majoritaire oblige, seront actés demain, eh bien l'affaire sera également actée du point de vue du pouvoir.
Et on passera peut-être déjà ou encore à autre chose. Globalement, est-ce que la tendance sur le moyen terme, c'est plutôt un encadrement juridique des responsables politiques et de leurs pratiques ? Vous écrivez, Béliard Nabli, l'État n'est pas qu'un monstre froid, il n'échappe pas à l'empire des valeurs. Donc est-ce qu'il suffit de faire confiance en l'État et dans les institutions pour que la vertu émerge toujours ? Ou visiblement, ça ne suffit pas, quoi. C'est toujours le débat.
Le débat, voire l'aporie qui a été au cœur peut-être de l'échange, je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, de l'échange entre le Premier ministre Édouard Philippe et Monsieur Mélenchon, chef des Insoumis, avait rappelé finalement l'exigence de vertu civique qui devait peser sur tout responsable politique, et Édouard Philippe, Premier ministre, répond du tac au tac en appelant non pas finalement à cette vertu civique parce que finalement elle ouvre une porte sur un champ dont on ne connaît pas les limites. En fait, il en rappelait finalement l'épisode de la terreur et la figure de Robespierre. Et il en appelait donc au respect des règles, à l'état de droit, tout simplement. Le problème, c'est que d'un côté et de l'autre, on voit bien qu'il n'y a pas de solution idéale. Parce que si on appliquait simplement les règles, on voit bien que... bien, il y a des zones grises où M. Benalla, d'une certaine manière, peut légitimement dire qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement, notamment à l'Élysée. Et en même temps, si on s'engage dans la volonté d'avoir des responsables politiques idéaux et totalement exemplaires, on ouvre une boîte de Pandore et qui finalement pourrait se retourner précisément contre la démocratie elle-même.
Merci Béliard Nabli d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Est-Créteil, essayiste, cofondateur du site chronique.fr et que votre livre La République du soupçon a paru aux éditions du Cerf. Et puis j'invite aussi à lire votre article paru dans le nouveau magazine littéraire sur cette affaire Benalla et ce qu'elle raconte et ce qu'elle incarne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.